Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
La résurrection, ça commence aujourd'hui. Tel va être le thème de notre méditation aujourd'hui. Mais nous prions avant d'ouvrir la Bible pour qu'elle devienne pour nous parole de vie. Père, nous te rendons grâce pour ce moment où nous allons ouvrir la Bible et la lire. Nous te prions, Seigneur, pour qu'en l'écoutant, elle ne soit pas une parole usée et vieille, mais une parole vivante pour aujourd'hui. Qu'elle nous fasse grandir et nous attire vers toi. Amen. La première lecture est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 1 à 5. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
Et la deuxième lecture du jour se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, les versets 11 à 19. « Car je vous le déclare, frères, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme, avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans recourir à aucun conseil humain, ni monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. Ensuite, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Et je suis resté 15 jours auprès de lui, sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur.
Et la dernière lecture est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 11 à 17. Or, Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle, et il lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha la civière. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région.
Come.
La résurrection, ça commence aujourd'hui. Je voudrais réfléchir avec vous sur la mort et la résurrection, et sur les miracles de Jésus qui nous dérangent, comme le dit dans son livre le pasteur Alphonse Maillot. Avec la pensée du médecin que je suis, dont la noble mission est de soigner les patients et de leur donner les moyens, parfois, de guérir.
Les miracles de la Bible nous dérangent. Pour l'homme moderne, ils peuvent même devenir un obstacle à la foi. Ils occupent pourtant dans la Bible une place considérable. Si vous enlevez, par exemple, tous les miracles de l'évangile de Marc, vous constaterez bien vite qu'il ne vous reste plus grand-chose du ministère de Jésus.
De fait, nous plaçons d'habitude le miracle là où il n'est pas. Aveuglés par le détail, nous ne voyons plus l'essentiel. Or, l'essentiel, le voici. Les miracles sont des signes. Des signes certes parfois ambigus, mais pour lesquels une parole libératrice se trouve authentifiée devant nous et comme mise en œuvre. Des signes de Dieu qui ouvrent à l'espérance. Des signes qui engagent.
Commençons par le plus tragique, la mort. La mort qui ronge nos vies. Heureusement pour nous, Christ est ressuscité, la mort est définitivement vaincue. Christ vivant vient et il renverse le cours de la mort. La résurrection, ça commence aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que la mort pour nous ? La mort, c'est d'abord le décès, la fin de la vie terrestre. C'est ensuite la solitude, le vide laissé dans le cœur des proches. C'est enfin le jamais plus, auquel on fait moins attention. Jamais plus je ne connaîtrai l'enfance, la rencontre, la beauté du petit matin avec le lever du soleil sur la campagne, le sourire, le rire.
Or, Jésus vient renverser le cours de la mort. Parce que nous sommes humains, nous avons conscience du temps. Nous avons conscience que nous sommes entre notre naissance et notre mort au triple visage, le décès, la solitude et le jamais plus. Nous sommes entre deux. Et cet entre deux vibre aussi dans le texte que nous avons lu ensemble. Nous sommes entre la Galilée et la Judée, entre la campagne et la ville, entre le cortège funèbre et le cortège des disciples et fidèles, enthousiastes de Jésus, entre la mort et la vie.
Et Jésus, ému aux entrailles, nous dit le texte, renverse le cours de la mort. Jeune homme, je te le dis, éveille-toi. Le mort s'assied et se met à parler. Tous glorifient Dieu en disant, un grand prophète s'est éveillé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jusqu'alors, le sentiment s'était installé que Dieu ne visitait plus son peuple, qu'il avait fait autrefois, mais que c'était fini.
Jésus ressuscite un jeune homme qui était mort. Bien sûr, la mort ne disparaît pas pour autant. Très finement, Luc écrit d'ailleurs que le mort s'assied. Il garde donc le mot « mort » pour désigner le jeune homme. Et il indique qu'il s'assied et non pas qu'il se lève, alors que le terme « se lever », c'est ce qui est le verbe adéquat pour parler de résurrection. Le jeune homme mourra donc plus tard. Mais ce jour-là, Jésus le ressuscite. Et désormais, c'est la mort qui est en sursis.
Jésus relie le jeune homme à la vie, à ses proches. Il le donne à sa mère, dit le texte. Et ce faisant, il redonne vie et espoir à sa mère qui était déjà veuve et perdait tout avec la disparition de son fils.
Shall we exalted? Shall we
Émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche avec à la technique Simon Martin. Les intermèdes musicaux sont des extraits du Messie de Handel et nous vous parlons aujourd'hui de miracles et de résurrection.
Jésus relie aussi les deux cortèges qui ne font plus qu'un. Un grand prophète s'est éveillé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jésus relève, Jésus relie. Jésus ouvre les portes du jamais plus qui enfermaient, il renverse le cours de la mort. Dans quel cortège sommes-nous ce matin? Dans le cortège qui accompagne la veuve, abattue par le décès, détruite par la solitude, enfermée dans le jamais plus? Ou dans le cortège paisible, souriant, qui accompagne Jésus?
Dans tous les cas, nous nous retrouvons tous après la résurrection du jeune homme, dans l'unique cortège des humains, placé sous le regard de tendresse de Dieu. Je voudrais revenir maintenant avec vous sur les miracles de Jésus, ces miracles qui nous dérangent, car c'est un paradoxe des temps modernes. Nous n'attendons pas des pasteurs ou des prêtres ou de Dieu qu'ils nous guérissent, et pourtant, Jésus dans l'Évangile est montré comme faisant beaucoup de guérisons et même de résurrection.
Cette querelle, cette question des miracles de Jésus a été longtemps l'objet d'une querelle violente dans le protestantisme entre les orthodoxes, disant qu'il est très important de tout croire dans l'Évangile, et les libéraux, refusant de croire ce qui leur semblait contraire à la raison.
Aujourd'hui, la tendance est assez souvent d'interpréter les textes en faisant une lecture symbolique et théologique. Chaque infirmité guérie représentant l'un de nos propres problèmes, l'une de nos propres infirmités possibles. Ainsi, quand Jésus guérit un aveugle, on pourrait dire que cela me concerne aussi. En effet, je ne vois pas toujours clairement qui je suis, où je vais, qui est Dieu, qui est mon prochain. La guérison de l'aveugle dans l'Évangile peut me montrer comment la foi, la recherche spirituelle, Dieu ou le Christ peuvent m'ouvrir les yeux pour voir l'essentiel qui n'est visible que par le cœur.
On dit que les miracles sont la preuve de la divinité de Jésus, qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Jésus est la parole faite chair. Il est aussi amour et compassion. Il sait guérir et sauver, et il le fait. Souvent pris de compassion, ému aux entrailles. Paradoxalement, on doit constater que le grand miracle de l'Évangile est sans doute le miracle d'amour, qui a conduit le Christ à renoncer lui-même au miracle spectaculaire et contraignant. Le récit de la tentation, à côté d'autres, témoigne de cette volonté de Jésus de ne pas obliger les gens à croire en lui par quelque action surnaturelle. Jésus s'est dépouillé de sa puissance divine, nous dit Paul.
Jésus parle. Et après avoir dit ce qu'il avait à dire, il accomplit le miracle, la guérison, qui donnera une dimension supplémentaire, une force plus grande à sa parole, ainsi qu'une incarnation et une humanité plus réelles. C'est d'ailleurs la signature qu'il a mise à ses paroles par les miracles qui le rendra dangereux aux yeux de ses adversaires et qui ira le conduire à la mort.
La prière, qui est étroitement liée au miracle. La prière, chez Jésus et pour nous, surtout quand elle est collective, est une force prodigieuse. Avec un peu de foi, grand comme un grain de sénevé, nous dit l'Évangile, elle peut déplacer les montagnes. Elle vient du fond de l'âme et nous relie à Dieu.
Ainsi, Jésus a guéri des malades qu'il rencontrait. Sans doute même beaucoup plus que ne le dit l'Évangile. L'Évangile n'a raconté que certaines guérisons, qui sont justement celles qui peuvent servir de parabole pour autre chose, celles qui ont en plus un sens d'enseignement, que l'on peut lire donc comme des paraboles. Et là, c'est vrai, Jésus peut m'ouvrir les yeux. Il peut me relever quand je suis à terre, terrassé par le doute, la peur, la difficulté. Il peut m'aider à réapprendre à agir, me remettre en marche en quelque sorte quand la peur me paralyse.
Il peut me purifier, faire en sorte que je ne me sente pas exclu du monde, de la société, parce que je me sens coupable, impur. Il peut même faire encore plus. Il peut me faire triompher de mes peurs. Il peut multiplier le peu de nourriture spirituelle que j'ai pour qu'elle me nourrisse. Il peut transformer l'eau plate de ma vie en un vin de joie. Il peut même me ressusciter, me redonner goût à la vie. Et tout cela, ce ne sont pas des miracles peut-être. Pour conclure, je crois que le Christ fait des miracles extraordinaires dans nos vies.
Il les transforme, les rend rayonnantes, pleines de joie, de confiance, d'enthousiasme, quelles que soient nos épreuves et nos infirmités physiques. Finalement, le vrai miracle n'est-il pas que Dieu consente à marcher réellement avec les hommes ? La foi, l'espérance et l'amour, voilà les signes actuels de son œuvre parmi nous.
Souvenez-vous, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 21 à 27, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, répondit-elle. Moi, je crois que c'est toi le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Je vous propose de prier. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux, et qui n'avait pas une pierre où poser sa tête. » Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car eux seront consolés, et qui a pleuré devant la tombe de son ami. » Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les humbles, car eux hériteront la terre, et qui s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. » Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car eux seront rassasiés, et qui a touché le lépreux pour protester contre son rejet. » Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les miséricordieux, car à eux il sera fait miséricorde, et qui a arrêté les religieux qui voulaient lapider la femme adultère. » Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les cœurs purs, car eux verront Dieu », et qui a laissé une femme verser un parfum de grand prix sur ses pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les artisans de paix, car eux seront appelés fils de Dieu », et qui a refusé de se défendre quand on est venu l'arrêter. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux », et qui a été injustement condamné et crucifié. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, et par son esprit, il est avec nous tous les jours, et il nous appelle à vivre dans l'esprit des béatitudes. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.